Bonjour et bienvenue à Espérance aujourd'hui. Je m'appelle Ian.
Et je m'appelle Hélène. Nous sommes heureux de vous retrouver.
Aujourd'hui, lors de notre émission de réflexion biblique, nous allons dans un premier temps nous pencher sur un thème qui apparaît dans le livre des Proverbes. Et ensuite, nous méditerons sur la parabole du fils prodigue.
Ceci en compagnie de nos invités, Alain et Flavien. Tous deux exercent un ministère pastoral dans le sud de la France.
Que nous habitons dans une ville ou un village, chacun de nous côtoyons des voisins. Nos relations avec eux peuvent être enrichissantes, comme elles peuvent être source de soucis. Car nous pouvons bien nous entendre avec eux, comme entretenir avec certains des relations difficiles. La Bible nous donne-t-elle des conseils sur la manière de vivre en harmonie avec nos voisins? Je peux répondre oui. En ce moment, nous étudions le livre des Proverbes avec mon invité Alain. Dans ce livre, nous trouvons des paroles emplies de sagesse. Nous conseillons quant à la manière de résoudre les problèmes pouvant toucher le quotidien, comme sur la question évoquée tout à l'heure, comment être un bon voisin.
Bonjour à tous. De nombreux proverbes, effectivement, nous apportent des conseils quant à ce que devraient être nos relations avec nos voisins comme avec notre prochain. Le mot « prochain », d'ailleurs, a une signification proche du mot « voisin », car il désigne toute personne rencontrée au quotidien. Voici le premier proverbe que nous pourrions prendre en considération. Il se trouve au chapitre 3, verset 29. « Ne médite pas le mal contre ton prochain lorsqu'il demeure tranquillement près de toi. » Je pense qu'il est rempli de bon sens et facile à comprendre.
Oui, ce proverbe évoque le cas de ceux qui vivent en harmonie avec leurs voisins. Il les exhorte tout simplement à s'abstenir de tout acte qui pourrait briser cette paix, de toute parole qui pourrait provoquer le prochain ou serait la cause de conflits.
C'est exact, Yann. Nous ne devons pas délibérément commettre une faute grave à l'égard de nos voisins. Que ce soit un vol, une agression, un mensonge ou une escroquerie, nous ne devons pas avoir recours à ces pratiques. Nous pouvons aussi aller plus loin et affirmer qu'il est sage de réfléchir à ces actes et de peser ses mots en présence de nos voisins afin de ne pas les offenser par inadvertance. Lorsque nous nous entendons particulièrement bien avec eux, nous devons travailler à maintenir ces relations harmonieuses en cherchant à devancer ou à éviter tout problème.
Mais qu'en est-il quand les relations de voisinage ne sont pas aussi paisibles ou lorsqu'un conflit survient?
Les deux proverbes qui suivent vont nous aider à répondre à cette question. L'un se trouve au chapitre 25, verset 9. L'autre au chapitre 11, verset 12. Règle ton différend avec ton prochain et ne va pas révéler les confidences d'un autre. Celui qui traite son prochain avec mépris est un insensé, mais l'homme intelligent accepte de se taire.
Quel conseil se dégage-t-il de ces proverbes?
Selon ces proverbes, lorsqu'un conflit ou un problème intervient, il y a deux façons de l'aborder.
Et quelles sont-elles?
Nous pouvons chercher à régler un différend, soit en prenant des dispositions sages, comme nous pouvons, par des réactions insensées, attiser une querelle ou empirer un conflit.
Donc la sagesse veut que l'on cherche des solutions pour résoudre les difficultés. Mais quelles sont ces réactions insensées que vous avez évoquées?
Les deux proverbes en question évoquent le commérage. Tout d'abord, comme les versets lus nous l'apprennent, nous pouvons bénéficier des confidences de nos voisins si nous avons gagné leur confiance. Il est bien entendu qu'ils pensent que nous ne les divulguerons pas et que nous respecterons leur vie intime. Or, le commérage consiste à dévoiler les secrets d'une personne en vue de nuire à sa réputation. En temps normal, il est déjà difficile de résister à la tentation de participer au commérage. La tentation devient plus grande encore lorsque, suite à un différend avec un voisin, on peut être amené à divulguer ses secrets. Cette diffamation ne peut qu'attiser le désaccord existant, comme la tension entre les personnes. Il s'agit là aussi d'un désir de rendre le mal pour le mal. Et en agissant ainsi, un cercle vicieux entretenant les conflits s'établit, pouvant mener à la violence. De plus, le commérage consiste souvent à prendre un fait insignifiant, peut-être vrai à l'origine, pour le grossir, l'exagérer et tenter si bien qu'il en perd beaucoup de sa véracité. Lorsqu'un problème de voisinage survient, la tentation existe de parler des autres de façon à les désavantager. Une fois de plus, ces attitudes nuisent aux relations de bon voisinage, et comme les proverbes lus nous l'enseignent, la sagesse consiste à se taire plutôt que d'aggraver la situation.
Merci pour vos conseils qui font appel à des valeurs bibliques, telles que le pardon, la tolérance et la réconciliation. En les suivant, nous pouvons honorer Dieu et éviter bien des ennuis. Avant de conclure, les proverbes contiennent-ils d'autres exhortations?
Nous avons déjà exhorté nos auditeurs à s'abstenir de tout comportement risquant de semer le trouble entre voisins. Toutefois, les proverbes ne se limitent pas au conseil d'éviter le mal. Ils nous encouragent aussi à pratiquer le bien. Écoutez Proverbes chapitre 3, versets 27 et 28. Si tu en as le moyen, ne refuse pas de faire du bien à celui qui est dans le besoin. Ne dis pas à ton prochain « Va-t'en et reviens plus tard. Demain, je te donnerai », alors que tu peux le faire tout de suite.
Donc, une des manières de favoriser de bonnes relations de voisinage est d'aider, selon ses propres possibilités, ceux qui en ont besoin.
Tout à fait, Yann. L'aide que nous pouvons apporter à nos voisins peut s'exprimer sous diverses formes, en fonction des besoins qui existent, selon nos moyens aussi. La loi divine dit « Aimez votre prochain ». Nous ne devons donc pas lui fermer notre cœur. En lui prouvant notre amour par ce que nous pouvons faire pour lui, nous exprimons l'amour de Dieu pour nous et apportons de la joie, de la bonté dans un monde où ces choses manquent trop souvent.
Merci Alain pour ces paroles d'exhortation. Que chacun puisse réfléchir sur la manière de mieux aimer son prochain. À présent, Yann va introduire notre méditation biblique portant sur l'une des paraboles de Jésus.
Je suis de nouveau avec Flavien, et ensemble nous poursuivons nos réflexions sur ce que j'appelle la parabole des deux fils perdus. Écoutons d'abord le début de cette histoire racontée par Jésus, afin de nous faire réfléchir sur d'importantes vérités spirituelles. Au fur et à mesure que nous progresserons dans cette série, nous découvrirons la suite de ce récit.
Un homme avait deux fils. Le plus jeune lui dit « Mon père, donne-moi ma part d'héritage, celle qui doit me revenir un jour. » Et le père fit le partage de ses biens entre ses fils. Quelques jours plus tard, le cadet vendit tout ce qu'il avait reçu et s'en alla dans un pays lointain. Là, il gaspilla sa fortune en menant grande vie.
La dernière fois, nous avons appris que l'attitude du fils cadet peut représenter notre propre conduite devant Dieu. Car tout comme ce fils a profondément offensé son père, en se conduisant comme s'il était mort, nous offensons Dieu lorsque nous vivons comme s'il n'existait pas. Ce fils ayant quitté son père rappelle la rupture de relation entre Dieu et les hommes. Et cette rupture de relation demeure si les hommes ne se repentent pas et ne changent de voie. Nous remarquons aussi que ce fils avait un frère aîné. Qu'apprenons-nous de lui, Flavien?
À travers les versets lus, nous apprenons sur lui peu de choses. Nous comprenons cependant que le père a partagé ses biens entre ses deux fils. Sinon, rien de plus dans le passage lu n'est précisé sur ce fils aîné. Toutefois, nous pouvons peut-être apprendre quelque chose de son silence.
Et pourquoi dites-vous cela?
Pour pouvoir répondre à votre question, je vais à mon tour vous en poser une autre. Si vous assistiez à une scène similaire, où l'un de vos frères demandait à votre père sa part d'héritage, comment réagiriez-vous?
Je pense que j'essaierais de raisonner mon frère et de soutenir mon père.
Beaucoup diraient de même. Apparemment, à l'époque, comme aujourd'hui d'ailleurs, dans les cultures du Moyen-Orient, le fils aîné devait défendre l'honneur de son père. En cas de désaccord ou de dispute avec un autre membre de la famille, il devait tout mettre en œuvre afin de réconcilier les deux parties s'opposant.
Et pourtant, il me semble que le fils aîné de la parabole racontée par Jésus ne dit rien.
C'est ce que le texte laisse à supposer. Or, ce détail a certainement étonné les auditeurs de Jésus.
Et comment pouvons-nous interpréter son silence?
Il semblerait que le frère aîné a approuvé la requête de son frère. D'ailleurs, lorsque le père fit le partage de ses biens, il continua à garder le silence au lieu de protester et de refuser sa part. Son attitude n'est guère mieux que celle de son frère. Il n'était peut-être pas tout aussi rebelle que lui, en apparence. Mais tout laisse à supposer que la relation qu'il avait avec son père n'était pas forcément bonne. Nous découvrirons d'ailleurs, dans la suite de l'histoire, que cela était effectivement le cas.
Mais pouvons-nous retenir des leçons spirituelles de cela ?
Oui. Vous avez dit au début qu'il serait bon d'appeler cette parabole la parabole des deux fils perdus. Car l'un, en quittant la maison de son père, montre qu'il est perdu, tandis que l'autre prouve aussi qu'il est possible d'être perdu tout en restant dans la maison du père.
Et que signifient ces images ? Pouvez-vous nous les expliquer ?
Le fils aîné peut représenter tout homme qui pense être pieux, toute femme qui croit connaître Dieu, mais qui, malgré les apparences, n'entretient pas une véritable communion avec Dieu, le Père. Certaines personnes sombrent dans le mal et pêchent de façon évidente, et nous pouvons les comparer au fils cadet de la parabole. Mais d'autres semblent mener des vies respectables, elles se croient bien, honorables, elles fréquentent d'ailleurs peut-être même une église. Mais au fond de leur cœur, elles ne connaissent pas Dieu. Dans notre parabole, le fils aîné vivait auprès de son père. Mais dans son cœur, il était tout aussi loin de lui que ne l'était son frère cadet, parti à l'étranger. Voilà une tragédie, car cette parabole prouve qu'il est possible de paraître pieux et bien devant les hommes, alors que son cœur est aussi loin de Dieu que celui qui mène une vie dissolue.
Donc Jésus, en racontant cette parabole, voulait que deux catégories de personnes se remettent en question.
C'est exact, Yann. Il est d'ailleurs intéressant de noter que l'évangéliste Luc nous apprend qu'autour de Jésus étaient assises des personnes représentant ces deux cas de figure. Il y avait d'une part les pécheurs notoires, c'est-à-dire les personnes mal considérées par la société, comme les prostituées par exemple, les escrocs ou ceux qui collaborent avec l'occupant romain. D'autre part, il y avait les pharisiens. C'étaient des religieux menant des vies respectables et plutôt bien considérées. Ces derniers devaient d'ailleurs se sentir visés par la façon dont Jésus dépeignait le frère aîné. Or, malheureusement, beaucoup leur ressemblent aujourd'hui.
Mais pourquoi Jésus a-t-il dépeint ces personnages si sombrement ?
Comme nous l'avons dit la dernière fois, il voulait éveiller en eux la crainte de l'Éternel, leur faire prendre conscience, comme à nous, que le plus important est de désirer jouir de l'amour du Père. Car Dieu, notre Père, veut nous offrir son amour. Il voudrait que tous nous jouissions d'une véritable communion avec lui. Le fils aîné comme le fils cadet, par leur comportement, leur attitude, ne permettaient pas à l'amour du Père de pénétrer dans leur cœur. Mais vous aussi, vous pouvez vous priver des bienfaits d'une véritable relation avec Dieu, notre Père céleste. Or, cette parabole nous montre tous les dangers d'une telle attitude. Elle nous offre aussi la possibilité de découvrir les merveilles de l'amour de Dieu.
Pour en savoir plus, écoutez notre prochaine émission d'Espérance aujourd'hui. En attendant, nous vous disons au revoir.
Et que Dieu vous bénisse.